Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
La Constelación.
Bonsoir à tous et bienvenue dans la Conspiration des Planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus qui ne vous quitte pas cet été. On vous accompagne en faisant jouant les prolongations durant ce mois de juillet et en vous proposant des émissions un petit peu particulières, toujours le mercredi à 19h et en rediffusion le jeudi à 13h30. On poursuit en effet notre série de portraits des nouveaux directeurs de théâtre et de lieux culturels à Bruxelles. En effet, cette année a été marquée par les hasards du calendrier des différentes salles. En tout cas, on en a retenu 4 et aujourd'hui, 4e étape avec Léal de Scarbeck et son nouveau directeur, donc artistique, Christophe Galland, qui est avec nous en studio. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Bonjour Christian aussi qui est avec nous pour nous accompagner durant cette émission. Alors, on va tout de suite entrer dans le sujet. Léal de Scarbeck donc, vous accueille en tant que nouveau directeur après la direction de Fabienne Verstraeten. Vous nous venez d'Outre-Quiévrin, comme on dit chez nous. Vous avez notamment exercé les fonctions de secrétaire général du côté d'une scène nationale en France, la scène nationale du Havre, le Volcan. En Normandie, vous avez également occupé les mêmes fonctions au théâtre Le Passage, un centre de création artistique du côté de Fécamp. Et vous avez été aussi chargé de mission pour différentes actions culturelles, des débats, développement international auprès du Festival Off d'Avignon également. Et vous vous êtes spécialisé aussi dans la création et la diffusion artistique. Ça tombe à pic, évidemment, lorsqu'on doit venir gérer des lieux également. Mais la première question qui se pose, évidemment, comment êtes-vous arrivé au Hall de Scarbeck aujourd'hui en 2013? Mais je crois avoir lu que ce n'était pas votre première visite du côté des Halles de Scarbeck.
Ah non, j'ai connu les Halles il y a très longtemps, à un moment où je conseillais des groupes japonais. Et qui m'avait demandé une expertise culturelle sur l'ensemble des salles de Bruxelles au début des années 90. Et c'est là que je suis rentré pour la première fois au Hall, qui était évidemment encore un peu noir. C'était pas la rénovation, c'était avant la grande rénovation, comme on l'appelle. Et évidemment, c'est un lieu qui, immédiatement, quand vous rentrez là-dedans, ça vous fait rêver, quoi. C'est une chose immense qui est propice à toutes sortes de décors. Enfin, on imagine tout de suite des choses un peu fantastiques.
Mais elle a un imaginaire particulier.
Bah, bien sûr, elle a un imaginaire, une histoire, presque une mythologie. C'est ça qui est intéressant. Voilà.
Mm-hmm. Vous avez aussi rencontré très vite Joe Dickmin, qui était le principal support, j'imagine.
Alors oui, alors
par le off, par les halles.
Par les halles, non, pas du tout par le off en fait. Non, je sais que Joe vient tous les ans maintenant, mais je le sais que maintenant. Non, je suis venu aux halles en postulant, mais en postulant à la dernière minute, puisque je pensais qu'en tant que Français, je n'avais aucune chance. Mais j'ai une telle appétence pour ce lieu qui me fait tellement rêver qu'à la dernière heure du dernier jour, j'ai décidé que j'envoyais quelque chose. Et voilà, c'est comme ça.
C'était un lieu dont vous avez suivi l'évolution depuis vos premières visites ou pas?
Alors, de temps en temps, j'y venais, oui, plus ou moins. On a suivi. Enfin, les Halles, c'est un lieu qui a une résonance encore davantage, il me semble, hors des frontières qu'à l'intérieur de Bruxelles. Donc, c'est un lieu dont beaucoup de gens parlent. Et évidemment, de toute façon, on est imprégné de ce qui s'y passe.
Alors, petite précision quand même pour nos auditeurs. Il faut savoir que dans notre série ici, on parle souvent de mots génériques théâtre. Évidemment, le théâtre de poche dont on a fait le portrait d'Olivier Coyette, mais également le théâtre de la vie sont des théâtres. Les Riche-Claire, c'était plutôt un centre culturel. Ici, on est dans un centre culturel multidisciplinaire, pluridisciplinaire.
Donc trans-européen.
Trans-européen. Donc, beaucoup d'adjectifs qui dépassent le simple fait du théâtre. En effet, les Halles de Scarbeck se sont développées dans divers domaines, que ce soit le cirque, la danse également, la performance, les arts plastiques également avec diverses expositions. Est-ce que ce sont cette pluridisciplinarité qui vous intéresse?
Ce qui m'intéresse, c'est la liberté particulière qu'on peut trouver au Hall, qu'on n'aurait jamais dans une scène nationale française où les missions sont trop définies.
C'est le lieu qui l'offre, ça, l'espace.
Et l'espace qui permet une modularité incroyable et qui invite à rêver de l'occuper de toutes les manières possibles, bien sûr. Oui. Et puis, il y a toute l'histoire des Halles avec, dans la mémoire encore des gens, même s'ils ne les ont pas vécues, les grandes fêtes des années 70, les venues de la monnaie dans les années 80... Et tout ça participe de l'atmosphère du lieu, même si les gens ne l'ont pas vu, ils savent que c'en est imprégné. C'est un lieu qui a un certain magnétisme.
Alors, les Halles, par définition, au départ, ça séduit par l'espace, donc par la grande Halle. En même temps, j'imagine, tenant compte de l'expérience des directeurs ou directrices précédentes, vous vous êtes dit... Ces Halles qui sont magnifiques, il faut les mettre au centre de tout. D'abord parce qu'elles sont belles, qu'elles permettent de grands spectacles et qu'elles rapportent, qu'elles peuvent être remplies. Disons, ça c'est le côté manager, j'imagine, qui a aussi centré un maximum de sa programmation sur cette grande Halle.
Alors là, sur le rêve, oui, évidemment, on a envie de jouer avec tout l'espace, mais avec tous les espaces, c'est-à-dire la grande, la petite, mais les caves aussi, ce qu'on appelle les caves, et même la piscine chez nous, c'est l'espèce de décrocher dans la cave. Mais ensuite, vous savez, plus vous faites de grandes formes, plus c'est cher. Donc, c'est pas parce que vous allez faire de la grande halle que vous allez être plus rentable que si vous faisiez que des petites formes en petite halle. Non, c'est plus du ressort du désir, cette envie d'envahir la grande halle. Effectivement, on va commencer tout le premier trimestre, d'octobre à décembre, en grande halle et en grande jauge. Et puis encore en janvier, on va faire une immense fête qui va être créée spécialement pour le lieu.
Alors, on va voir vos permanences. La permanence, c'est quand même le cirque qui, non seulement... Vous maintenez plus ou moins le festival hors-piste d'Amkums et vous étendez, mais ça c'est votre système général, vous étendez le cirque, mais aussi d'autres disciplines, tout au long de l'année, de sorte qu'il y ait au moins un événement par semaine.
Oui, c'est l'idée, c'est-à-dire que jusqu'ici, les Halles travaillaient beaucoup par temps fort, mais évidemment quand on a un temps fort, on a ensuite une période d'inoccupation, en tout cas pour le public, puisqu'il se passait des choses, mais ça n'était pas visible. Moi, je préfère travailler de manière régulière, de semaine en semaine, de manière à aussi faire que le public puisse s'imprégner de l'idée qu'au Halles, il va toujours se passer quelque chose, et plus poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il n'y a rien? Il y aura toujours quelque chose.
Et en tout cas, les week-ends et parfois même en semaine, c'est ça?
Ah oui, en plus, on va lancer des mini-séries. Pour l'instant, on est sur 2, 3, 4 quand on a une création cirque en mars. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut arriver à étendre pour donner de l'air aux jeunes artistes, notamment.
Alors, on a beaucoup parlé de la beauté du lieu. Encore faut-il savoir ce qu'on y amène. On a parlé du cirque, là. Les Halles sont aussi un endroit inscrit dans un quartier qui se veut rassembleur des publics. Est-ce que ça touche aussi le directeur quand on a un projet comme ça qui a précédé? On connaît aux Halles, par exemple, les événements comme Super Voisin ou vraiment le public des proches alentours, eh bien, arrive vraiment là. Est-ce qu'on va continuer ce travail sur le quartier?
Alors pour moi, il y a deux objectifs. Le premier, qui est une chose qui me hante, c'est comment est-ce qu'on fait pour inventer des événements qui vont toucher des publics qui ne vont jamais voir des spectacles. Et je ne parle pas forcément des publics de quartier, je parle des gens qui restent devant leur télé ou qui vont tout simplement, qui ne s'intéressent pas au spectacle. Voilà. Voisin et Super Voisin, c'est une manifestation qui a fait ses preuves, qui a maintenant atteint une certaine maturité. Et il devient possible, avec le travail qu'on a fait dans le quartier et avec les groupes, on va dire, d'amateurs, pour le dire vite, de penser plus loin et d'arriver à intégrer cette manifestation de quartier dans une manifestation de plus grande ampleur qui sera justement dirigée vers ces publics qui ne viennent jamais. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est assez simple. Quand on se demande où ils peuvent bien aller quand ils ne vont pas au spectacle et qu'ils font quelque chose qui est quand même un peu culturel, quoique le mot culturel en ce moment, c'est... quand on parle de l'exception culturelle pour sauver des séries télévisées, enfin bon... ils vont par exemple dans des parcs d'attractions. Alors un de mes grands rêves, c'est de jouer avec tout l'espace des Halles et d'inventer un parc d'attractions, une foire, mais évidemment...
Permanente alors?
Sur un grand week-end, trois jours, ouverts du matin au soir sur un grand week-end, dans lesquels on aura... prendra la place d'avoir des attractions un peu basiques, des artistes qui vont vraiment travailler à réinventer ce que c'est que... que la foire ou que l'attraction. Typiquement, dans Super Voisin, vous aviez une tyrolienne qui était utilisée. Et vous savez que les Halles travaillent beaucoup avec les AC, l'école de cirque. Mmh. C'est extrêmement facile de laisser les jeunes jouer sur la tyrolienne et à un moment, de faire entrer quelques funambules. Et de cette manière, vous allez attirer le regard des gens qui viennent juste pour s'amuser vers quelque chose qui est de l'ordre de l'artistique. Et petit à petit, comme ça, on peut les emmener d'abord vers le cirque, sans doute, parce que c'est le plus accessible, et ensuite vers d'autres disciplines. C'est ça l'idée de la foire.
Vous parliez de rêve, mais est-ce qu'il y a du concret déjà sur ce point-là ?
Ah oui, mais il y a du concret, mais là, on n'a pas encore l'estimation budgétaire. Et oui, il y a des choses qui arrivent.
Alors justement, vous me permettez d'enchaîner, puisque on parle beaucoup des rêves qu'inspirent ces lieux, des rêves de création artistique, d'accueil de spectacles aussi. Comment on s'en donne les moyens ?
Comment on s'en donne les moyens ? Il y a très peu d'endroits sur lesquels on peut jouer. Le premier paramètre, c'est celui des subsides publics. Mmh. Et vous savez qu'on n'est pas vraiment dans une période qui laisse à espérer une augmentation de table, dit subside, bien qu'on se batte pour ça. Mais sur certaines zones très particulières, les Halles, on fait un travail monstrueux sur le fonctionnement. Donc, par exemple, ça fait 8 ans que les coûts de l'énergie n'ont pas bougé aux Halles. C'est quand même... assez extraordinaire, mais on arrive au bout
général,
du système.
Il n'y a plus d'indexation.
Pas d'indexation. Or, nous, forcément, nous avons affaire à des dépenses qui sont forcément indexées. Donc, si on demandait des augmentations, c'est sur des choses extrêmement ciblées, comme des projets qui nous permettent de soutenir des tout jeunes artistes.
Voilà. Donc, Voisin, ça devient foire, c'est ça ?
C'est la foire attraction. C'est pris dans un mouvement qui s'appelle la foire attraction. Tout à fait.
Alors, une autre des contentes, il y a le cirque qui reste en grande partie. Il y a le contact avec le public local, mais bien au-delà aussi, pour mêler l'amateurisme et le début d'intérêt pour le professionnalisme artistique. Et puis, vous avez, disons, la tendance... pointu, qui était incarné par un festival lui aussi, vous le baptisez Europe Refresh ou Europe Refresh, je sais pas.
Alors non, c'est tout à fait autre chose, Europe Refresh.
Ah,
Europe,
oui.
Refresh, c'est juste un salon, c'est un rassemblement de projets qui est d'ailleurs destiné à tous les, les jeunes qui auraient un projet à faire financer. Donc ça, c'est comme un grand salon. Ça tourne autour du financement participatif, de tout ce qui se travaille dans les alternatives sociétales autour d'Internet. Puisque pour moi, c'est l'endroit où les Halles ont un rôle à jouer. Comme dans les années 70, elles ont aidé l'écologie à surgir, ou les mouvements féministes. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à travailler les alternatives sociétales à travers Internet. Europe Refresh, c'est un endroit où 50, 60, jusqu'à 80, après, on sera vraiment... vraiment assez jeunes, ressortissants de tous les pays d'Europe habitant Bruxelles, pourront venir présenter un projet et chercher un financement à travers une plateforme de financement participatif.
Un projet Internet ou un projet via Internet ?
Un projet via Internet, c'est un financement via des réseaux sociaux.
Alors évidemment, par exemple, pour donner des exemples concrets pour nos auditeurs, on voit maintenant éclore des plateformes comme KissKissBangBang qui voit plein de projets musicaux et artistiques, même cinéma parfois, se créer à partir de ça, du crowdfunding, comme on dit. Et c'est à partir de cela, j'imagine, le modèle.
Absolument. D'ailleurs, on est en partenariat avec KissKissBangBang sur cet événement. Mais vous allez voir qu'il y a énormément de monde qui vient autour de nous, puisque Damien Van Achter sera aussi là pendant cet événement avec son van.
Donc le spécialiste des nouveaux médias en Belgique.
Absolument, oui. La plateforme WeShare sera avec nous. Make Sounds, qui est une plateforme internationale dédiée à l'entrepreneuriat social, nous rejoint. Enfin, ce sera vraiment quelque chose de...
Je vous propose de faire une première pause musicale. Vous nous avez amené du matériel, Christophe Galland. On va peut-être un petit mot sur ce qu'on va écouter, donc Pearl.
Pearl, alors ça c'est une bizarre idéal. Nous allons refaire de la musique, mais en lançant des projets à nous. Et vous verrez, on va ouvrir la saison avec Dark Side of the Moon, l'album mythique des Pink Floyd. Et puis dans la saison, on va faire un concert Janis Joplin, mais avec des inédits.
Eh bien, on parlera de musique justement dans la deuxième partie de cette émission.
Dreams came to my mind, smiling on their white hulls. let's party. Dreams came to my mind, smiling under white heart. I'm dying, let's party.
Et voilà donc un premier choix musical de Christophe Galland. De retour dans la conspiration des planches, avec lui justement pour parler de cette nouvelle saison du côté des Halles de Schaerbeek. Alors on parlait justement de musique, le retour de la musique aux Halles de Schaerbeek qui avait été un petit peu mise de côté. Est-ce qu'il y avait sans doute un sentiment que d'autres lieux l'emportaient plus de ce côté-là sur Bruxelles ?
Autour des Halles, il y a une légende musicale, c'est-à-dire que beaucoup de gens sentent, se souviennent ou alors savent qu'il y a eu de très grands concerts aux Halles. Évidemment, c'était dans des années où il n'y avait pas encore tous ces équipements sur Bruxelles. Néanmoins, ça participe de la légende des Halles et j'ai envie de jouer avec cette légende. Donc on fait revenir la musique aux Halles avec des projets tout à fait spécifiques puisque on joue avec le lieu et avec les 40 ans des Halles. Les Halles, ça a été découvert en 72 par Joe Dekmin. C'était à l'époque un parking sauvage. Et en 72, pendant que Joe découvrait les Halles, les Pink Floyd enregistraient à Londres dans leur album mythique Dark Side of the Moon. Et donc on ouvrira la saison avec une nouvelle version de Dark Side of the Moon en live intégral, puisque les Pink Floyd ne savaient pas le jouer en live. Il y avait des trucages qu'ils ne savaient réaliser qu'en studio. Et en concert, il le jouait avec une bande playback. Et là, vous verrez quelque chose qui est à la fois un concert et une performance scénique, puisque tous les trucages sont faits sous vos yeux. Mmh. Et c'est assez incroyable. Mais vous venez d'entendre quelque chose d'un peu particulier, puisque c'est, en fait, ce que vous avez entendu, c'est à l'intérieur d'une pièce de théâtre. Voilà, c'est une pièce de théâtre sur la vie de Janis Joplin, qui était faite... qui est en construction actuellement, qui est en création. Donc vous avez un, un avant-goût de ce que ça pourra donner. Et c'est en fait Fabrice Melchiot qui s'est amusé à écrire un texte avec Paul Desvaux, le metteur en scène, et Vincent Artaud, qui est un grand compositeur qui a notamment fait la musique de The Artist, s'est mis à la tâche aussi. Et donc ils ont inventé ça, c'est une pièce qui se passe dans un studio, un peu comme on est aujourd'hui. Et donc évidemment, il faut enregistrer des titres. Et alors ils se sont mis à trouver une comédienne qui avait aussi une capacité vocale, à qui ils ont donné... Qu'ils ont fait chanter et puis petit à petit ils se sont dit on va écrire du vrai faux de Janis.
Si on vous comprend bien, donc ramener la musique aux Halles, oui, mais de manière particulière avec des projets exceptionnels.
Ce sont des projets que nous pilotons entièrement. Ouais. Et là finalement est née l'idée de faire tout un concert de Janis. Donc l'équipe est en train de s'enfermer à la Gaîté Lyrique à Paris pour finaliser 12 titres qui seront donnés en grande halle dans une version concert que vous verrez absolument nulle part ailleurs. C'est fait pour nous. Et puis autour de ça, on a des jeunes artistes belges qui vont venir jouer avec nous.
Alors, juste aussi un avant-goût, si vous étiez attentif au festival au Carré à Mons, par exemple, cet été, il y avait la présentation de l'opéra Bouffa, une espèce de grand repas musical autour de Don Giovanni. Eh bien, ça sera de retour, notamment
avec
en
du
halle.
Chocolat.
Et du chocolat en dessert, oui, paraît-il.
Je vois que vous avez été certain.
Oui, la tradition chocolat en Belgique, vous allez prendre tout le monde avec ça.
Donc un autre exemple des expériences musicales qu'on pourra vivre est évidemment...
Là, c'est une expérience gastronomique et je peux vous dire qu'il faut avoir faim.
On en reparlera de toute façon dans ces émissions de la conspiration des planches lorsque les événements approcheront. Toujours donc dans cette programmation musicale, mais aussi autre, parce qu'on parlait en ouverture d'émission aussi trans-européen. Alors, on entend beaucoup dans vos projets Europe Refresh. Alors, l'Europe sera présente au Hall de Schaerbeek, des artistes qui viennent de France également. C'est l'échange à travers les frontières qui est aussi au centre. Les Halles de Schaerbeek veulent être un centre, un réceptacle de ces créations.
Plus qu'un réceptacle, l'idée c'est dans 3 ans d'avoir une dizaine d'artistes qui viendront de toute l'Europe, mais pas des grands noms, des trentenaires. Pour arriver à faire ça, il faut que le public ait confiance dans ce qu'on va proposer. Donc il faut d'abord constituer un public fidèle et petit à petit faire rentrer ces jeunes artistes du trentaine d'années. Et ce sera aussi une manière pour nous d'aider les jeunes artistes belges de la trentaine à trouver des manières de pouvoir se présenter hors des frontières et pas seulement en France. Évidemment, ici, il y a un atavisme vers la France, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres pays qui pourraient accueillir avec des artistes belges et avec lesquels nous, on pourrait travailler.
D'ailleurs, une Canadienne, je crois. Mais ça, c'est dans
Angela Laurier, oui, mais elle n'est pas trentenaire. Les cougars.
Non, elle est cougar. Oui, mais il y a parfois de beaux mélanges de genres.
Tout à fait. Oui, je pense qu'il y a un besoin d'Europe et il y a surtout un besoin de comprendre comment on fait circuler des jeunes artistes en Europe. Et pas juste des grands noms et pas juste des tout petits réseaux, mais vraiment travailler à une échelle intermédiaire. Quoi.
Oui. Alors, ce qui m'a frappé aussi, pour revenir à quelque chose de plus proche du théâtre ou du mélange des genres avec le théâtre pour centre, ou la danse. Vous continuez votre collaboration avec le KUNS, le Festival des Arts, par exemple, mais de manière différente. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, je pense que les Halles ont une aura dans le monde qui permet de vouloir s'adresser au premier cercle, ce qu'on appelle le premier cercle, les grandes salles. Et dans ce cadre-là, nous avons décidé que désormais, avec le KUNS, nous serons en coproduction et pas en accueil. Pour l'instant, en tout cas cette année, et puis c'est assez souvent le cas, le KUNS pose des spectacles en grande halle. L'idée, c'est bien de coproduire ces spectacles, donc déjà d'avoir un regard partagé sur la programmation avec le KUNS, et ensuite, à un moment, puisqu'on a maintenant 4 compagnies associées au hall, de pouvoir aussi aider ces compagnies à monter en production.
Alors, ces 4 compagnies associées au HAL, c'est lesquelles ? C'est évidemment des trentenaires.
Eh oui, vous avez gagné.
On peut les citer peut-être.
Qu'on connaît quand on s'intéresse au théâtre comique.
Claudio Stellato, par exemple, qui est quelqu'un de complètement inclassable et qui a la volonté de sortir complètement, enfin, qui travaille dans des formats qui ne sont pas des formats classiques de la scène. Son grand rêve, c'est que je me débrouille pour le faire habiter dans un arbre pendant un mois, pas le spectacle. Vous avez Louise Van Est, qui est une chorégraphe qui est aussi chez Charleroi Danse, mais qui, pareil, a le même désir de sortir des formats classiques. Vous aurez Claude Schmitz qui nous rejoint au Hall, avec, vous le savez bien aussi, une spécificité, c'est-à-dire qu'il travaille avec des gens qui ne sont pas des professionnels de la scène. Et puis un collectif qui est totalement inconnu, qui s'appelle If Human, qui est une drôle d'histoire, puisque en fait, ça a séduit plusieurs directeurs, on va dire ça comme ça, non pas sur le spectacle que personne n'a vu, ou quasiment, mais sur quelques minutes d'images d'un documentaire sur l'aventure de leur dernière création. Ce sont un collectif de trentenaires, alors disons ça comme ça, donc qui chacun d'entre eux est connu, enfin il a une expérience assez importante dans son métier. Mais ils ont décidé il y a 2 ans et demi que justement ils avaient trop d'expérience et qu'il fallait retrouver une sorte de fragilité dans leur jeu pour trouver des choses essentielles. Et ils se sont lancés, mais comme ça, entre eux, dans une aventure de 2 ans dans laquelle ils se sont mis à danser. Alors, ce sont quasiment tous, sauf une, des comédiens. Donc, évidemment, ce n'est pas des experts de la danse. Et à travers ce biais, ils ont retrouvé une sorte de, ouais, d'humanité.
Voilà, donc on a parlé donc de ces nouvelles compagnies. Il nous reste encore quelques minutes, hein, parce que l'émission passe très vite, d'accord, malheureusement. Mais je voulais quand même venir...
Il est concis.
Et voilà. Je voulais quand même revenir un peu sur vous qui arrivez dans ce climat un petit peu particulier au niveau belge, au niveau culturel, budgétaire, difficile. On sait que les contrats-programmes sont un point charnière. Comment on aborde ça quand on découvre cette mécanique institutionnelle un petit peu particulière chez nous ?
Vous savez, elle n'est pas si différente de la mécanique française. Voilà.
Un peu moins riche.
Oui, il y a moins de moyens, c'est clair. Il y a moins de partenaires institutionnels qui sont autour d'une salle. Par contre, vous avez une beaucoup plus grande liberté dans l'émission, en tout cas au HAL. Hein, c'est particulier au HAL.
Donc on rappelle en tant que centre pluridisciplinaire, j'imagine.
Oui, c'est parce que les Halles ne sont pas à cause de l'histoire des Halles, tout simplement, qui s'est construite presque sans les pouvoirs politiques au début. Donc,
contre.
Contre, voilà, allez. Contre pendant quand même une bonne vingtaine d'années. Donc ça donne une marge de liberté au total, cette histoire-là. Et puis il y a un très bon dialogue avec l'administration de la culture. Maintenant, tout le monde sait qu'il n'y a pas des moyens extraordinaires. Mais c'est la même chose en France. En France, on en est à couper les subsides, des fois de 5-10%. Bon, on n'en est pas encore là à Bruxelles, donc il y a moins de moyens. Mais non, on l'aborde, je dirais, sereinement. On sait qu'il y a des contraintes et on sait qu'il faut inventer un projet qui permettra de passer outre ces contraintes ou en tout cas de jongler avec elles.
À part Catherine Diveres, qui est une star internationale, vous, effectivement, toute votre programmation est... pas anti-star, parce que Joplin, mais enfin, c'est pas des stars contemporaines qui coûtent très cher. C'est des reconstitutions autour, c'est des évocations. Mais au niveau, je dirais, marketing, vous avez inventé un concept H-nonyme qui est à la fois une manière de surprendre et avec divers... Derrière ce homonyme, il y a à la fois des initiatives et il y a à la fois des réductions de prix. C'est-à-dire que vous expliquez ce mélange des genres ?
Oui, tout à fait. Non, H-nonyme, l'idée, c'est d'avoir des complices. C'est-à-dire que le spectateur, bon, c'est un spectateur, d'accord, s'il veut juste avoir une réduction tarifaire, il l'a. Mais nous, on va l'emmener plus loin. Vous allez voir qu'il y a des choses très bizarres. On fait cette année un salon de la CIA avec nos 4 artistes, nos 4 compagnies associées. Déjà, rien que l'idée d'un salon de la CIA, c'est particulier. Mais on va aussi enclencher en ville, par-ci, par-là, des opérations, on va dire, plus secrètes ou plus discrètes, ou en tout cas pas forcément annoncées, qui aboutiront un jour à des spectacles. Et on va les faire avec ce que pour l'instant, on appelle des spectateurs, mais qui, moi, je préfère appeler des complices. Et donc, ils savent qu'en devenant H-nonyme, c'est effectivement une manière d'être anti-star, l'anonymat, ils pourront participer à des opérations secrètes. Alors, c'est très drôle parce que ça fait peur à certains qui préfèrent payer plein tarif plutôt que de se risquer à tout d'un coup avoir une surprise. Non, mais l'idée, c'est de les faire rentrer dans un processus beaucoup plus participatif. Je pense que le mot-clé au HAL, c'est ça.
Mais ça veut dire que dans la programmation telle qu'on la voit maintenant, il se glissera, s'infiltrera d'autres événements.
Absolument, oui. Mais par exemple, les H-nonymes pourront accéder à des choses qui sont plus ou moins dans la programmation, mais qui ne sont pas ouvertes à tout le monde, comme le workshop aérien qui sera une préfiguration de la foire attraction. Et puis, à un moment, avec nos artistes, on va faire des choses en ville. Oui, oui, on va jouer...
Dans la rue.
Ouais, dans la rue.
Par exemple.
Des monuments, de manière improvisée, apparemment.
Vous allez enlever la statue de Léopold II ?
Je ne ferai aucun commentaire. Nous avons une liste. Mais l'idée, c'est que les spectateurs deviennent des acteurs, en fait. Qu'on sorte de l'opposition scène-salle, parce que je pense que ça, dans 20 ans, c'est mort.
On retiendra en tout cas de cette philosophie des Halles de Christophe Galland, les mots légende des lieux, interaction avec les publics et les artistes, participation et pluridisciplinarité, évidemment, dans cette nouvelle programmation.
Et continuité du cirque pour ceux qui aiment ça, il ne faut pas les...
Ah oui.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Christophe Galland, pour cette
Merci
émission.
Vous.
On vous souhaite une excellente saison. La première de combien ?
La première de combien de saisons ?
Oui.
C'est 5 deux fois.
Voilà. Normalement. Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. On va se quitter avec un autre choix musical que vous nous avez amené. Un petit mot là-dessus pour ceux qui...
Voilà, ça c'était autour du concert Janice. On a fait un appel à projet à des groupes belges et en leur donnant une semaine de résidence au hall pour faire un de leurs concerts et en leur demandant de chanter un ou deux titres de Janice en première partie du concert qui aura lieu le 28 février. Et vous allez entendre ce que nous a envoyé... l'une des jeunes femmes qui a participé à cet appel à projet et qui sera dans le projet Janice.
Retrouvez la saison des Halles de Schaerbeek sur le site www.halles.be. Toutes les informations sur notre site internet également. Émission podcastable sur demandezleprogramme.be. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres conspirations des planches. Bel été à vous. Sing a wider engine. No one is getting that. No one is getting that. I'm gonna wait out for. I'm gonna wait out for a rendezvous. Love is a fence with a hook when I go away. Hopefully, I'll never leave. As I'm not there, there is no way for me to give you all my love. Then there's this rendezvous.